la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet et « Je lire » un père et sa fille. Tout d'abord, je suis en train de lire, je commence tout juste un livre baptisé « Bifurqué ». Un livre du collectif Internation sous la direction de Bernard Stiegler. Un livre avec une postface d'Alain Supiot et précédé d'une lettre de Jean-Marie Gustave Le Clésio. Sous-titré « Il n'y a pas d'alternative » publié aux éditions Les Liens qui libèrent. En octobre 2021, c'était le dernier livre qu'a coordonné Bernard Stiegler avant sa mort en août 2020. C'est un philosophe qui a fait de nombreux travaux avec notamment le collectif Ars Industrialis, refondé, rebaptisé dans quelque chose de plus vaste et de plus mondial, dans ce collectif Internation. Un livre qui questionne plus que jamais l'anthropocène et le modèle de capitalisme destructif qui est à l'œuvre. Je vous livre la quatrième de couverture, comme je le disais, j'en suis qu'au début. C'est un livre assez puissant qui est arrivé juste avant la pandémie de Covid-19. Et il y a d'ailleurs dans l'introduction quelques éléments, puisque au moment où ils concluent le livre et qu'ils sont en train de le mettre en forme, eh bien, le confinement a commencé. Notre modèle destructif de développement atteint ses limites ultimes. Sa toxicité de plus en plus massive et multidimensionnelle, sanitaire, environnementale, mentale, épistémologique, économique, est engendrée avant tout par le fait que l'économie industrielle actuelle repose sur un modèle physique dépassé qui dissimule systémiquement que l'enjeu fondamental de l'ère anthropocène est la prise en compte de l'entropie. Ce livre dessine le monde tel qu'il devrait être pour répondre aux grandes crises sanitaires, climatiques, sociales, économiques ou psychiques. En ces temps de graves périls, il nous faut bifurquer, il n'y a pas d'alternative. Une pensée donc très juste, très claire, très fouillée, assez précise, assez érudite également, avec beaucoup de références et de renvois à d'autres lectures. Je pourrais peut-être vous en dire plus quand j'aurai achevé la lecture de ce livre que j'ai trouvé en bouquinerie, mais qui se trouve sinon pour 9,90€, pas bien cher, 400 pages donc de réflexions, questions et propositions fermes et concrètes. C'est un ouvrage qui a été d'abord proposé à l'ONU lors d'une conférence en janvier 2020. Et je lis donc Un père et sa fille parce que de Bernard Stiegler, je lis Barbara Stiegler, sa fille donc. Une grande philosophe politique qui a publié de nombreux livres, de nombreux essais. Et ici, dans la petite collection Tracts de Gallimard, très belle collection à l'initiative d'Antoine Gallimard, qui rassemble des pensées puissantes du moment de l'époque contemporaine. C'est le numéro 23 de cette collection Tracts. Ça coûte 3,90€, autant dire presque rien, dans un joli papier recyclé. Publié en janvier 2021, donc déjà daté, on pourrait dire, puisque dans ce livre intitulé « De la démocratie en pandémie », sous-titré « Santé, recherche, éducation », Barbara Stiegler parle de toute la politique mise en œuvre de manière précipitée au moment de la pandémie. Mais elle ne parle pas encore, puisque ça n'était pas d'actualité en janvier 2021, des fameux passes sanitaires, passes vaccinaux, etc. Elle a depuis dit bien des choses à ce sujet. Vous pouvez trouver nombreuses références sur le net notamment, des vidéos, des conférences, des rencontres, des entretiens, où elle détaille un peu plus précisément encore sa pensée par rapport à l'évolution de cette démocratie en pandémie. En quatrième de couverture, on peut lire cet extrait de la pensée de Barbara Stiegler, plongée dans ce continent mental de la pandémie qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques. Nos esprits sont comme occupés. Elle écrit pandémie avec un P majuscule car ça devient un état politique. Je vous livre le début de ce livre relativement court qui fait une soixantaine de pages mais qui est là aussi dense et précis avec trois parties qui le composent. Il y a la première partie qui se situe pendant le confinement. Le confinement, ni stratégie ni complot, mais panique et entêtement du 17 mars au 10 mai 2020. La deuxième partie se situe au moment du déconfinement, l'immense déception d'une société déconfite, 11 mai 31 août 2020. La troisième partie enfin, reconfinement, le basculement dans une longue nuit sans Noël, 1er septembre, 28 novembre 2020. Elle achève l'écriture de ce livre le 14 décembre 2020. Mais voici l'ouverture de ce livre. Ceci n'est pas une pandémie, ce n'est pas un rassuriste qui le dit. C'est Richard Horton, le rédacteur en chef de l'une des plus prestigieuses revues internationales de médecine, le Lancet. Covid-19 is not a pandemic, il s'agit plutôt d'une syndémie, d'une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique, entendue au sens large. Car cette dernière ne dérègle pas seulement le climat, elle provoque aussi une augmentation continue des maladies chroniques, hypertension, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires, cancer, rappelle Horton, fragilisant l'état de santé de la population face aux nouveaux risques sanitaires. Présenté ainsi, le Covid-19 apparaît comme l'énième épisode d'une longue série, amplifiée par le démantèlement des systèmes de santé. La leçon qu'en tire The Lancet est sans appel. Si nous ne changeons pas de modèle économique, social et politique, si nous continuons à traiter le virus comme un événement biologique dont il faudrait se borner à bloquer la circulation, les accidents sanitaires ne vont pas cesser de se multiplier. La vie en pandémie, une étrange défaite. Nous savions tous cela, et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. Nous avons craint le heurt de la foule, les sarcasmes de nos amis, l'incompréhensif mépris de nos maîtres. Nous n'avons pas osé être sur la place publique, la voix qui crie, d'abord dans le désert, mais du moins, quel que soit le succès final, peut toujours se rendre la justice d'avoir crié sa foi. Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. C'est une citation de Marc Bloch, L'étrange défaite, témoignage écrit en 1940, Gallimard, 1990, page 204. La critique du Lancet ne cible pas seulement l'ultralibéralisme de Trump qui a fait le choix de laisser faire le virus. Elle invalide aussi la stratégie inverse de blocage qui a prévalu dans de nombreux pays, visant la population par une politique répressive inédite, tout en continuant à désarmer le système sanitaire et à abandonner les déserts médicaux, ruraux et urbains, dans lesquels se concentrent les populations qui affluent aujourd'hui aux urgences. Ce qui vaut pour l'aval de la crise sanitaire, aggravée par l'industrialisation des modes de vie, semble valoir aussi pour l'amont de l'épidémie, vraisemblablement déclenchée par une nouvelle zoonose, une maladie émergente d'origine animale liée au franchissement des barrières d'espèces, profondément fragilisée par les atteintes à l'environnement. L'industrialisation des élevages, couplée à l'accélération des échanges à l'échelle mondiale et à la dégradation de la santé des populations dans les pays industrialisés, produit ainsi toutes les conditions pour que le même type d'épidémie se reproduise régulièrement. Alors que les pouvoirs publics étaient alertés de la multiplication des maladies émergentes, analyser l'épidémie comme un simple aléa naturel témoigne d'une ignorance délibérée des causes environnementales. Beaucoup d'entre eux ont pourtant décidé de ne rien en dire, nous préparant à nous adapter sans protester à un monde nouveau, dans lequel nous serions régulièrement appelés à vivre masqués, confinés et survaccinés jusqu'à la fin des temps. Cette dissimulation de l'état de la science apparaîtra rétrospectivement comme le péché originel des gouvernants, qui ont fait le choix de la répression des citoyens plutôt que celui de l'éducation et de la prévention. Nombre d'experts ont joué ici un rôle trouble de caution. Au lieu de favoriser une libre circulation du savoir, ils ont contribué à l'édification d'un monde binaire, opposant les populistes, accusés de nier le virus, et les progressistes, soucieux, quoi qu'il en coûte, de la vie et de la santé. Dans ce monde simpliste, opposant deux camps, toute forme de nuances et de discussions critiques sur les mesures prises se sont progressivement éteintes, et avec elles la pluralité des voix du monde savant. L'analyse de Horton montre pourtant qu'entre le laisser-faire meurtrier et les stratégies radicales d'enfermement, toute une myriade de mesures d'une toute autre nature aurait pu s'imposer. Car l'autre révélation du Lancet, c'est que le modèle qui a servi de cadre mental aux scientifiques et qui a justifié le confinement de pays entiers n'était pas le bon. Ouvrez les guillemets. Nous avons considéré que la cause de cette crise était une maladie infectieuse. Toutes nos interventions se sont focalisées sur la réduction des lignes de transmission virale en vue de contrôler la propagation de l'agent pathogène. La science qui a guidé les gouvernements a été principalement conduite par des modélisateurs en épidémiologie et des spécialistes de maladies infectieuses qui, de manière tout à fait compréhensible, ont envisagé l'urgence sanitaire actuelle dans les termes séculaires de la peste. Fermez les guillemets. Or, si le Covid-19 n'est certes pas une grippe, il n'a en réalité rien de commun avec la peste, dont les modes de transmission ont servi de modèle au calcul des épidémiologistes qui ont affolé les gouvernants. À la différence de ce que suggère dans nos imaginaires le terme de pandémie, un mal qui frapperait tout le monde partout et n'importe quand, c'est le pan du grec pandémia qui désigne le peuple tout entier et, en l'occurrence ici, toute la population mondiale, ce virus ne peut avoir de conséquences graves, dans l'immense majorité des cas, que sur des organismes déjà affaiblis soit par le grand âge, soit par des facteurs de comorbidité. Le caractère extraordinaire de cette épidémie est donc moins endogène au virus comme entité biologique qu'aux circonstances sociales et politiques qu'il révèle et que le confinement a d'ailleurs durablement aggravé en augmentant les inégalités, en accélérant le délabrement du système de santé et en abandonnant à eux-mêmes une grande partie des patients jusqu'à les laisser mourir seuls et sans soins. « Restez chez vous », leur disait-on, pour ne pas contaminer les autres. Ce que le virus, au fond, met à nu, c'est la contradiction entre les effets délétères sur notre santé de ce qu'on appelle à tort le développement économique et le sous-développement actuel de presque tous nos systèmes sanitaires, y compris ceux des pays les plus riches de la planète. Mais ce qu'il révèle aussi, c'est le modèle de développement aberrant dans lequel nos sociétés se sont enferrées en privilégiant, contre tout le reste, un arsenal biotechnologique extrêmement coûteux. À l'hôpital, la pression à l'innovation s'est progressivement imposée au détriment des soins de base, pourtant indispensables à la santé, mais toujours plus méprisés par les gestionnaires. Dans un tel univers mental, une infirmière, un geste de la main, une conversation entre médecins, la discussion avec les patients, les lits, les stocks de masques ou de blouses, et même les recherches sur les zoonoses, toutes ces choses constituant du stock au lieu de produire du flux, ont été accusées de nous faire perdre du temps dans la compétition mondiale. En édifiant ces géants biotechnologiques au pied d'argile, les plus grandes puissances mondiales se sont désarmées elles-mêmes face à l'irruption du virus. Le réquisitoire du Lancet dessine en creux un complet changement de programme. La seule issue face à cette crise et aux autres crises à venir serait d'investir massivement et en urgence non seulement dans la recherche, mais aussi dans un système sanitaire et social qui puisse véritablement prendre en charge les patients, tout en développant un plan ambitieux pour une approche environnementale des questions de santé. Au lieu d'enfermer l'ensemble de la population jusqu'à la survenue du salut par l'industrie pharmaceutique, une telle politique aurait permis de soutenir plus que jamais toutes les activités virales de l'ensemble de la population. Le travail, l'éducation, la recherche, la culture, la vie sociale et politique en général, sans laquelle toute organisation sociale ne peut que s'auto-détruire à plus ou moins long terme. Si nous ne vivons pas une pandémie, nous vivons bel et bien, en revanche, en pandémie. Puisque ce n'est pas le terme adéquat pour décrire le mode de manifestation du virus, nous proposons que ce mot, ou plutôt ce nom, désigne, avec une majuscule, un nouveau continent mental, partie de l'Asie pour recouvrir l'Europe, puis pour s'imposer finalement en Amérique. Un continent aux contours flous et évolutifs, mais qui risque de durer des années et pourquoi pas des siècles et des siècles. Un continent dans lequel nos dirigeants nous disent que nous allons devoir changer toutes nos habitudes de vie et où l'on nous annonce que nous devrons adopter une nouvelle culture qui viendrait d'Asie. Un continent, enfin, dans lequel la pandémie n'est plus un objet de discussion dans nos démocraties, mais où la démocratie est elle-même, en pandémie, devenue un objet discutable. Les Français vont devoir accepter de vivre à distance les uns des autres, à apprendre la discipline indispensable à la survie du groupe, prévenaient dès le mois de mars les chroniqueurs, prenant en exemple ce qu'ils appelaient le civisme des Asiatiques. Alors qu'en 2015, au lendemain des attentats de Paris qui avaient saturé les urgences, il n'était surtout pas question de renoncer à notre culture démocratique et de changer nos habitudes de vie, cette fois, les Français, ces réfractaires qui avaient tant protesté, manifesté et fait la grève, allaient devoir apprendre à marcher droit. Notre hypothèse est que ce revirement n'est pas si brutal qu'il y paraît. Se préparant à bas bruit depuis plusieurs années, il s'explique probablement par un nouvel état du monde. Pour une bonne partie des classes dirigeantes qui a assisté avec effroi à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de Boris Johnson, mais aussi au réveil des révoltes populaires un peu partout dans le monde, le modèle ne doit plus se chercher à l'ouest, mais à l'est. Ce tout nouveau continent mental, avec sa langue, ses normes et son imaginaire, ce sont les dirigeants chinois qui ont été les premiers à l'explorer. C'est donc eux qui ont tout à nous apprendre, tandis que les Américains et leurs cousins britanniques n'ont rien vu venir. En pandémie, c'est la Chine désormais qui domine. Non plus seulement économiquement, mais aussi moralement, culturellement et politiquement. Comme tout continent, la pandémie a une langue qui se décline en idiomes nationaux. Mais ceux-ci traduisent des dispositifs inventés par la Chine. Confinement, déconfinement et reconfinement, traçage, application et cas contact. C'est une esthétique nouvelle qui se dessine. Ouvrez les guillemets. Un monde cybersécurisé, où chaque individu est suspect d'être malade, fiché, tracé, code barisé, code vert, vous circulez, code rouge, vous êtes arrêté. Comment passe-t-on du vert au rouge? C'est automatique. Si vous croisez des gens malades, une zone infestée, voire des idées douteuses. Puissance balistique de la peur, de soi, de l'autre, de vivre, de mourir. Fermez les guillemets. À l'ère du big data, géré par un algorithme psychotique qui rêve d'une humanité productive et épouvantée. Ainsi s'impose par une série de glissements insensibles le nouvel imaginaire politique des clusters. Rassemblements, places publiques ou universités sont étiquetés a priori comme des foyers infectieux, tandis que les lycées, les transports et les supermarchés sont réputés sécurisés. Cette nouvelle langue s'est aisément hybridée avec d'autres mots qui, en Amérique et en Europe, lui préexistaient. Cluster donc, mais aussi quarantaine, raccourci en quatorzaine puis en septaine. Plan de continuité des activités, acceptabilité sociale et finalement, couvre-feu. À ce lexique hérité tantôt du Moyen-Âge, tantôt de la gestion des risques, s'est ajoutée une série d'idiomes inventés par la francophonie, la bulle de contact, une invention belge, mais aussi, pour la France, les attestations de déplacement dérogatoires, la nation et les vacances apprenantes, avec leurs plages dynamiques, et pour désigner les brebis égarées, supposées populistes, voire platistes, les anti-masques, descendants directs des célèbres anti-vaccins, les rassuristes et les covido-sceptiques. Écrasés par cette nouvelle langue, les mots qui s'imposaient jusque-là comme les piliers du monde de la santé n'ont plus cours. Le consentement éclairé du patient, hérité du code de Nuremberg, le respect de l'autonomie et la construction d'une démocratie sanitaire conquise de haute lutte grâce à la crise du VIH apparaissent brutalement, en pandémie, obsolètes et hors de propos. Les patients qui apprennent le diagnostic d'une maladie grave, ceux qui meurent ou qui donnent la vie, doivent désormais mettre leurs préférences et leur autonomie en suspens, sans que l'on sache très bien quand va s'arrêter ce régime d'exception, puisque c'est le statut juridique de l'état d'urgence sanitaire. Et ce qui vaut pour les patients vaut aussi pour tous les autres, puisque, comme habitants de ce nouveau continent, nous sommes tous potentiellement malades, et à ce titre, tous décrétés patients. Comment pourrions-nous nous permettre de discuter les consignes édictées par la doctrine sanitaire? Pour paraphraser Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières ? Comment pouvons-nous encore nous permettre d'oser savoir, s'appeler ode, c'est-à-dire de faire valoir face à toute règle l'autonomie de notre raison ? Tandis que les Lumières vacillent, c'est la démocratie, plutôt que la destruction de l'environnement et de notre système de santé, qui se retrouve sur le banc des accusés. En pandémie, le président de la Ligue contre le cancer peut déclarer tout à fait à l'aise, un matin, sur la radio publique, quel est désormais le problème et non la solution. Ouvrez les guillemets. En contexte de pandémie, la démocratie est un inconvénient, fermez les guillemets, surtout si elle s'avise de devenir contestataire. Et l'autre invité de l'émission, journaliste du service public, peut abonder dans son sens. C'est l'extraordinaire pouvoir de la dictature chinoise qui s'en est, d'après elle, le mieux sorti. Curieuse appréciation de la situation. Le pays qui, depuis des années, a laissé se multiplier de nouveaux virus sur ses marchés humides, qui prétend régler les questions sanitaires en industrialisant les élevages agricoles, qui vient de laisser le dernier virus en date se propager dans le monde entier, qui a liquidé ses lanceurs d'alerte à Wuhan, qui a dissimulé à l'OMS des milliers de morts et qui, avec le modèle du confinement, a détruit économiquement la vie de millions d'individus ainsi que leur santé physique et mentale, se voit ainsi, sur France Culture, cité en exemple pour sa gestion de la crise et son sens de la santé publique, sans que personne sur le plateau ne s'en émeuve. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment, au pays des Lumières, un tel obscurantisme a-t-il pu prendre le pouvoir sur des esprits pourtant éduqués? Ce que cette crise nous révèle, c'est que la vision providentielle qui était celle de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique » et qui fut longtemps enseignée à l'ENA et dans les écoles de journalisme est définitivement démentie. Non. La démocratie qu'il a cru voir éclore en Amérique il y a 2 siècles n'était pas appelée à se répandre partout dans le monde. Pour les anciens adorateurs de Tocqueville, c'est même finalement le contraire. Longtemps, ils ont bien sûr partagé les inquiétudes de leur maître, celles d'une tyrannie de la majorité supposée accompagner la démocratie comme son ombre. Mais ils ont pensé comme lui qu'une démocratie domptée par les classes dirigeantes était la seule issue qu'on pouvait opposer au dangereux pouvoir de la masse et qu'elle s'imposait à ce titre comme le sens de l'histoire. Ce récit tocquevillien qui a triomphé avec la chute du mur de Berlin n'est aujourd'hui plus le leur. 30 ans plus tard, et en pandémie, la démocratie est désormais disqualifiée comme une survivance dangereuse à laquelle il faudrait se préparer à renoncer. Devant ce qu'ils appellent l'explosion inquiétante des contaminations, et qu'ils devraient plutôt appeler l'augmentation normale et prévisible des porteurs sains, puisqu'elle est inévitable dans toute société où circule un virus et où l'on continue à vivre, nous n'aurions absolument plus le temps de débattre ni de délibérer. Nous serions en guerre et nous sommes d'ailleurs en état d'urgence. Il ne nous reste donc plus qu'à accepter sans discuter la suspension de toutes nos activités jugées trop risquées. Le droit de contester les décisions politiques et de s'interroger sur le bien fondé d'une norme, le droit aussi d'aller et venir à sa guise dans l'espace public, celui enfin de manifester son opinion dans la rue, tous ces droits imprescriptibles sont devenus désormais des inconvénients à la limite de la légalité et qui se trouvent progressivement suspendus. Sauf si c'est pour soutenir une cause adoubée par le pouvoir. Alors que l'état d'urgence sanitaire vient d'être à nouveau décrété dans la plupart des grandes métropoles, le gouvernement n'hésitera pas dès le lendemain, suite à la décapitation d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, à appeler à d'immenses rassemblements. Empêchés de manifester au nom du virus contre les réformes en cours, les enseignants et tous les citoyens seront le même jour invités à manifester en masse contre le séparatisme islamiste et aux côtés des membres du gouvernement. À compter du 17 octobre, c'est le pouvoir exécutif qui désormais décidera des rassemblements dans la rue. Alors que sévit le couvre-feu, des millions de personnes seront appelées à s'amasser les unes contre les autres sur les places publiques, soudainement exemptées des gestes barrières et de la sacro-sainte distanciation. Alors surgit un soupçon. Croient-ils vraiment eux-mêmes à l'infaillibilité de la doctrine qu'ils exposent sans relâche ex cathedra et sur les plateaux ? Si l'on peut s'amasser à 10 000 sur les places publiques, pourquoi n'a-t-on pas le droit de s'asseoir à plus de 6 dans les parcs? Quel est le statut juridique de cette exception au régime d'exception? Et comment l'émotion collective peut-elle si facilement balayer la cohérence de notre état de droit? Le même jour, celui où l'on célèbre la liberté d'expression, une pétition lancée par des médecins demande à tous les rédacteurs de tribunes de tout simplement se taire pour ne pas ajouter de la confusion dans l'esprit des Français. Ouvrez les guillemets, dans cette période difficile, nous n'avons pas besoin de polémiques sur les mesures gouvernementales. Nous n'avons pas besoin de tribunes bien pensantes opposant indûment la liberté et la science et qui remettent en cause le plus élémentaire des valeurs humaines, se protéger et protéger les siens. Fermez les guillemets. Accusé quelques jours plus tard par le ministre de l'Éducation nationale d'un islamo-gauchisme complice de l'attentat, puis attaqué par le Sénat qui tentera de nier leurs libertés académiques au nom des valeurs de la République, les chercheurs qui osent participer au débat public sont ici accusés d'aggraver le désastre sanitaire et, dans tous les cas, invités à se taire. Derrière ce conflit des facultés, Saint-Jean, un affrontement factice entre la médecine, le droit et la philosophie, se cache en réalité une multiplicité de conflits qui traversent tous les champs académiques eux-mêmes, à commencer par celui des sciences de la vie et de la santé. Faut-il continuer à les dissimuler au public ? Notre pari est plutôt qu'il faut les exposer au grand jour, et que c'est là la seule voie qui puisse aider les citoyens à réfléchir de manière critique au rapport entre science et société. C'est aussi celui du Lancet qui, dans une langue claire et destinée à un large public, n'hésite pas à critiquer une partie de la science, « the science », écrit Richard Horton avec des guillemets, quand elle s'enferre dans ses certitudes et refuse de faire son autocritique. Ce monde de pandémie où le pouvoir élimine la démocratie en soumettant la science à son propre agenda, est-ce là le monde d'après ? Nul ne le sait. Et il ne s'agit pour l'instant que du monde rêvé par certains. Mais il est déjà largement réalisé par la Chine. Le monde d'après, c'est un monde désinfecté mais pollué. C'est le monde d'avant mais en pire, en plus hygiénique, en plus eugénique. Exsangue. Une humanité saine, silencieuse, censurée d'émotions, centrée sur l'amnésie du leader, son dogme, ses insomnies de guerrier, élevée dans la haine de la dissonance et l'amour de la javel. Sauf que la suite de l'histoire n'appartient ni à la Chine, ni à ses admirateurs, et qu'elle n'appartient d'ailleurs à personne. Parce qu'il n'y a pas de fin de l'histoire déjà écrite, l'issue dépendra aussi de notre empressement à défendre ou à enterrer la démocratie. non pas comme règne du repli défensif sur les droits individuels, mais comme régime redéfini par l'intensification de la vie sociale, par la reconquête des espaces publics et par la participation de tous à la science et au savoir, en particulier dans le champ de l'avenir de la vie et des vivants. La conviction qui nous anime en prenant aujourd'hui la parole, c'est que plutôt que de se taire par peur d'ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l'espace public, seule voie pour retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos démocraties. La stratégie de l'omerta n'est pas la bonne. Notre conviction est au contraire que le sort de la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats politiques cruciaux qui vont devoir se mener dans les mois et les années qui viennent autour de la santé et de l'avenir du vivant. Certes, tout est fait ces temps-ci pour nous empêcher. Plongés dans le continent mental de la pandémie qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont comme occupés. Il nous reste néanmoins deux armes, la diffusion de l'éducation et le rappel du droit, celles qui furent, justement, les bras armés de notre République. Ici se dessine, dans les temps obscurs que nous traversons, une mission historique pour les enseignants, les soignants, les chercheurs, les juristes et plus généralement tous les fonctionnaires qui doivent leur protection et la stabilité de leur statut à cette même République. Celle de ne pas réitérer l'étrange défaite des clercs et des savants, si bien décrite par Marc Bloch dans son témoignage sur la débâcle. Conjurer une telle issue implique de briser la loi du silence qui s'est imposée dans nos milieux et dans les médias. Elle suppose aussi que nos métiers retrouvent une forme de résistance face au pouvoir en dépit des attaques dont ils ont été constamment victimes à la faveur des réformes. Elle implique enfin qu'ils réinventent ici et maintenant, là où chacun se trouve, le sens de la grève, de la manifestation et de la mobilisation générale en les libérant des limitations sectorielles et à courte vue dans lesquelles ils se sont trop souvent enfermés. Pour montrer qu'une telle issue est encore possible, nous proposons de reprendre le fil de notre histoire là où elle s'est arrêtée et de la raconter en trois temps, celui du confinement, 17 mars, 10 mai, puis du déconfinement, 11 mai, 31 août, et enfin du reconfinement, avec son basculement dans une longue nuit sans Noël, 1er septembre, 28 novembre. À chaque fois, nous essaierons de montrer qu'au milieu de ce champ de ruines, il y avait, il y a toujours et il y aura, pour quelque temps encore, des alternatives et de formidables occasions de reconstruction. C'était l'ouverture de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation, signé Barbara Stiegler dans la collection Tract Gallimard, publié en janvier 2021 pour 3,90€. C'est le numéro 23 de cette très belle collection de chez Gallimard Tract. Il y a une soixantaine de pages et vous avez donc eu un état des choses et l'ouverture vers les trois parties qui suivent que je vous laisserai découvrir. Il est bon de préciser que Barbara Stiegler, elle-même le précise, n'a pas fait ce livre seule, mais c'est un travail née de conversations entre collègues, chercheurs, enseignants, étudiants, soignants, citoyens, proches et amis, avec une tentative d'élaborer ensemble, pendant 9 mois, une compréhension de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ça doit beaucoup notamment aux participants du master Soins, éthique et santé, ainsi qu'à ceux du séminaire Démocratie, sciences et éducation. Beaucoup de gens donc sont cités en remerciement, en ouverture de ce tract. Précisons que Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne et qu'elle a publié de nombreux livres et qu'il est très 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 pertinent de la lire, de l'écouter, de la regarder éventuellement. C'est la fin de cette chronique, je lire.
Un amour remonte la bretelle de l'autoroute, pousse un caddie et glisse dans la boue. Des quarts de CRS en tout le camp, deux boîtes cassoulet froid pour les enfants, la soupe populaire au parc municipal. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, des familles entières vivent sur les trottoirs. Un d'avenir, aucun espoir. La route est bondée ce soir, mais où elle mène, tout le monde le sait. Depuis l'embouteillage, je regarde ces gens et j'attends le son du soulèvement. Le prêtre range sa Bible dans sa poche, rassemble son courage et sort une clope. Il attend le jour où les derniers seront les premiers. On traverse les tentes des sans-papiers avec leurs allées simples pour la terre promise. Trou dans le ventre et dans les chemises. Dormir à 40 dans les baraquements. Se baigner dans l'eau des écoulements. La route est bloquée ce soir, mais où elle mène, tout le monde le sait. Du soulèvement. Je serai là. Partout quelqu'un cherche un endroit pour vivre. Un boulot normal ou juste un coup de main. Partout quelqu'un cherche à être libre. Regarde ses yeux et tu verras les miens. La route est morte ce soir, et où elle-même, personne ne s'en souvient. Depuis l'embouteillage, je regarde ces gens et j'espère le soir du soulèvement.